lire le texte qui est, c'est les dernières paroles en fait du livre des Actes. Et prenez un moment encore une fois pour prier, demander à Dieu de que chacun d'entre vous reçoive quelque chose de la parole de Dieu, de la voix du Saint-Esprit ce matin. Oui, Seigneur, je ne suis qu'un faible instrument et chacun de nous n'est qu'un faible écouteur de ta parole, mais par ton esprit, le courant va passer. Et donc, Seigneur, je prie que dans ton amour, tu nous permettes de comprendre quelque chose, d'amener quelque chose à la maison qui va nous dynamiser, nous aider pour la semaine. Et merci parce que ça vient de ta parole. Au nom de Christ, nous prions. Amen. Alors, on termine notre série, notre longue série sur le livre des Actes. Aujourd'hui, on a considéré ensemble pendant toute l'année scolaire, depuis septembre, cette Église des apôtres, la toute première Église qui va de l'avant parce qu'elle est à l'écoute du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et c'est comme un équipage de bateau qui part et le capitaine, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Et on a vu cette Église dans différents épisodes qui écoutait son capitaine avec foi, des fois avec surprise, malgré les obstacles, malgré même ses propres défauts. Cette communauté de personnes imparfaites avançait dans la Judée, dans Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, oui. Acte 1, 8. Alors, ce qu'on vient de lire tantôt, c'est la fin. Jusqu'aux extrémités de la terre, la promesse du Saint-Esprit, c'est le tout début dans Acte 1. Ici, ce qu'on voit, en fait, c'est le quatrième voyage de Paul. Il est en arrestation, en fait. On dirait que c'est comme une croisière. Oh, on est allé dans telle ville, avec le bateau, tel port, on a loué une maison, les frères nous ont accueillis pendant 7 jours. Non, en fait, il est sous arrestation et en fait, dans les paroles qu'on a lues, il attend son procès à Rome. Et puis, tout d'un coup, c'est la fin. Le texte se termine en queue de poisson. Ce que cette fin d'histoire nous suggère, c'est que même si Paul, plus tard, va finir par être exécuté. En tout cas, c'est ce que disent les documents historiques. Ce n'est pas marqué dans le Nouveau Testament, mais il y a d'autres écrits qui nous le disent. En même temps, l'histoire s'arrête où il est en train de continuer de prêcher. Il est joyeux, il annonce l'Évangile avec liberté, malgré sa captivité. C'est une manière de nous dire, même s'il va y avoir des embûches, le travail que Jésus a demandé de commencer se poursuit, hein? Et il se poursuit jusqu'à nous. Comprenez-vous? Nous, on est dans la continuation de la prédication. Le livre des Actes se termine avec de la prédication, puis nous, on continue. Et c'est pour ça que cette année, chaque matin, nous avons été à l'écoute de ce que le livre des Actes nous dit. Nous avons été en train de considérer ce que ça veut dire, être à l'écoute nous-mêmes du Saint-Esprit, dans l'Oasis, et puis moi-même, personnellement, comme disciple. Le travail qui a été commencé, nous, on le continue dans notre coin du monde, en tant qu'Église, et aussi comme famille, et aussi comme individu. Amen. Oui, tu es toi aussi dans le même bateau. Voyons. Ah, voilà. Tu es dans le même bateau que les apôtres, dirigé par le capitaine Saint-Esprit. Et il faut qu'on se souvienne que dans le bateau dans lequel on a embarqué quand on a reçu Jésus-Christ, Dieu est non seulement le capitaine, mais il est aussi le vent qui pousse le bateau. Donc, je t'invite à regarder cette image derrière moi de cette voile, de cette grande voile blanche, et à te dire, dans ma relation avec Dieu, je suis cette voile. Et Dieu est le vent puissant et doux qui la remplit. Comme on a entendu si bien avec notre frère Mathieu la semaine passée, il nous a rappelé l'Évangile, pour ceux qui étaient ici, un très beau message. Il nous a rappelé que Dieu, qu'on ne connaissait pas avant, Dieu a voulu devenir notre papa. Il nous a tellement aimés qu'il nous a connectés avec lui par son Fils Jésus-Christ et son sacrifice parfait, et nous a donné un esprit qui est un esprit d'adoption, un esprit qui fait qu'on réalise dans notre cœur, Dieu, tu es le papa qui m'aime, tu m'as adopté. Et cet esprit aussi souffle à mon esprit pour dire à Dieu, moi aussi je t'aime, moi je te remercie en retour et je veux te faire plaisir. Montre-moi, ô papa adoptif, ô Dieu qui m'aime, ta manière de voir les choses. Ça, c'est peut-être le vent le plus important du Saint-Esprit, c'est quand il nous fait réaliser que Dieu nous aime et que nous, à notre tour, on répond avec l'amour. Ce matin, on va parler de cette voile qui est en nous et comment le Saint-Esprit la remplit. Dans le livre des Actes, on voit beaucoup de chrétiens qui se laissent dirigé de la sorte, qui se laisse remplir par ce vent. Et à partir du chapitre 11 de Actes jusqu'à la fin, le focus est beaucoup sur l'apôtre Paul. On a vu au préalable, est-ce qu'il a commencé chrétien? Est-ce qu'il a toujours été chrétien, l'apôtre Paul? Il était quoi avant de devenir chrétien? Un persécuteur. C'était un ennemi de Jésus-Christ, absolument. Et le Saint-Esprit a fait quoi? C'est révélé à lui d'une manière puissante sur le chemin de Damas. Hein? Il a comme eu une vision de qui est Christ vraiment. Et ça a complètement changé sa vie. Donc, on a vu plusieurs épisodes du ministère de Paul, qui est devenu un apôtre. Et le sermon d'aujourd'hui, c'est pas mal axé sur Actes 21 à 28, le quatrième et dernier voyage. Paul a fait quatre voyages et le dernier, en fait, Paul, il a été en captivité. Le quatrième voyage, c'est le voyage mauve ici. Il se fait arrêter par ici à Jérusalem. Wesh, voilà. Et ensuite, il va de procès en procès. Et finalement, il finit par être envoyé à la Cour suprême. Ça, c'est l'empereur. Et il fait ce long voyage-ci. Voilà. Et il finit à Rome. Et en fait, le procès ultime n'a pas encore lieu. Mais ce qu'on a lu tantôt, c'était juste ce petit bout-ci de Malte jusqu'à Rome. D'accord? Paul est en captivité, chaque nuit on lui met des chaînes pour pas qu'il s'enfuit, mais on appelle ça quand même un voyage missionnaire, parce que partout où il va, il annonce la bonne nouvelle, il témoigne de ce que Christ est pour lui, c'est pas les épreuves qui l'arrêtent. Et en fait, moi, je vous encourage à lire Actes 21 à 28 cet été. Vous pouvez même l'écouter sur YouTube. Vous faites Actes des apôtres audio en français et puis il y a au moins une ou deux options. Ça m'a pris 45 minutes de l'écouter cette semaine et c'est 9 chapitres. Puis c'est vraiment intéressant à lire. C'est assez unique. Il y a beaucoup de voyages en bateau. Beaucoup de violence, beaucoup de problèmes, beaucoup d'actions. Et puis, beaucoup de vent. C'est comme aéré parce qu'ils sont en mer et puis ils vont de ville en ville. Et puis, c'est comme un symbole aussi d'un autre vent qui est beaucoup plus rafraîchissant encore. Puis, c'est le vent du Saint-Esprit qui souffle partout dans ce quatrième voyage de Paul. En tout cas, ça pourrait être une activité de vos vacances, relire ces 9 chapitres d'une shot. Et la leçon principale avec laquelle on va terminer notre série, c'est ceci. Ma sœur, mon frère, laisse Dieu remplir ta voile, comme Paul l'a fait. Laisse-le remplir ta voile. Et tu deviendras un témoin joyeux du Christ, même dans les épreuves. Je vais répéter ça. Laisse Dieu remplir ta voile et tu deviendras un témoin joyeux, même dans les épreuves. Ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est regarder 3 réalités dans ces 9 chapitres, puis qu'on voit un peu aussi dans le petit bout qu'on a lu. Donc, les traces de plénitude qu'on voit dans la vie de Paul, on voit que sa voile spirituelle est remplie, de l'amour de Dieu. On va essayer de faire des liens avec nos vies aussi, parce que je sais que chacun de vous, vous vivez des épreuves, vous vivez des découragements, vous vivez des questions. Puis, chacun de vous, vous avez un appel, comme on a dit au début, un appel à continuer ce beau travail de faire connaître cet amour que Dieu nous a donné. Donc, les traces de plénitude, deuxièmement, les épreuves. On va regarder un petit peu les épreuves que Paul a vécues. Puis, troisièmement, la victoire de la joie. OK? C'est important de voir que quelqu'un qui souffre trouve quand même la joie. Premièrement, les traces de la plénitude de l'esprit qu'on va voir, qu'on voit en Paul, pas juste en Paul, mais bon, comme je vous ai dit, la fin du livre des Actes, c'est pas mal Paul. Comme le vent qui pousse sur la mer les navires dans lesquels voyagent Paul et ses compagnons, on dirait que le Saint-Esprit est partout en train de souffler sur Paul et dans Paul, remplissant sa voile, allant au-devant de lui comme un éclaireur, l'entourant comme un bouclier invisible, le remplissant de courage et de sagesse comme une potion vivifiante, marchant derrière lui comme une arrière-garde de protection, et puis lui donnant une force spéciale dans tout ce qu'il fait. Il y a tellement de choses qui arrivent dans ces chapitres qui montrent que Paul n'agit pas seul, même quand il est seul. Je vais faire un petit inventaire qui n'est pas complet, mais juste, il y aurait tellement à dire. Mais écoutez, quand vous lirez, vous verrez, souvent, il est averti d'avance de dangers qui viennent, ce qui lui permet de les éviter. Souvent, sur la mer, en pleine tempête, l'Esprit-Saint va lui communiquer des instructions de navigation qu'il va transmettre au capitaine humain du bateau. C'est quand même drôle, non? Que le prisonnier va dire, « Mais j'ai reçu des instructions divines, il ne faut pas aller par là. » Et puis, à un moment donné, il dit, « Il faut qu'on jette la cargaison à la mer. » Et ils finissent par lui obéir. C'est assez surprenant. Quand il est sur l'île de Malte maintenant, la petite île qu'on a vue, où ils ont fait naufrage finalement, eh bien, Paul, il est divinement protégé. Vous connaissez peut-être cette histoire. Il aide les naufragés à faire un feu de camp sur la plage, et il y a un serpent qui sort du bois, qui s'accroche à son bras. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu ça? Bravo, c'est bien, c'est bien. Mais non seulement le mort, mais s'accroche à son bras, est obligé de secouer puis de frapper le serpent pour que le serpent s'enlève. Oui. Et le venin, parce que c'est une vipère, c'est une morsure mortelle, le venin ne l'affecte pas. Un peu plus tard, dans le même naufrage, il prie pour des malades qui sont guéris. Et tout cela contribue à l'impact de l'évangélisation sur cette île, une évangélisation qui se fait alors qu'il est prisonnier. J'ai jamais eu jusqu'à date d'incarcération dans ma vie. T'es content? T'es content, hein? Ça peut arriver, mais je peux vous dire que ça serait mon dernier souci, je m'imagine, c'est mon dernier souci de témoigner de Christ dans mon incarcération. Paul, ça ne dérangeait pas, lui. Il prêchait l'Évangile et il se laissait remplir de l'Esprit. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? En tout cas, c'est un exemple pour nous. Maintenant, son état d'esprit montre les traces de la plénitude. Puis c'est un autre exemple pour nous. Il est souvent triste, mais jamais découragé. Dans les contretemps, il cherche toujours l'opportunité divine et la saisit. Il prend les occasions pour témoigner et pour prêcher. On remarque aussi ceci, très intéressant. J'ai oublié de noter la différence, mais à au moins un moment, il débarque dans une escale, dans une ville, et cherche les chrétiens de cette ville pour avoir une communion fraternelle avec eux. Ça aussi, c'est un signe du Saint-Esprit de rechercher la présence de Christ dans un endroit nouveau et de chercher les chrétiens pour être encouragés par eux et pour les encourager. Personnellement, moi, même en vacances, j'aime ça faire ça. Je dis personnellement parce que ma femme, elle a une autre philosophie. Elle aime être au repos quand elle est au repos. Moi, je me dis, moi, ça me booste de dire, hey, allons trouver une église dans le coin si je suis en voyage et de connecter avec les chrétiens là-bas. Et j'ai une certaine justification. Paul le faisait. Alors, je suis son exemple. Et je vous lance cette invitation, peut-être cet été, durant votre voyage, s'il y en a qui voyagent, de considérer cette option, peut-être d'aller faire un tour dans une église du coin, de connecter avec les chrétiens du coin comme Paul le fait. Cela peut être, sans faire une loi, ça peut être le signe du Saint-Esprit qui vous dit, « Va connecter avec mes enfants. » Alors, le portrait de Paul ici est tellement héroïque qu'on peut se demander, est-ce que Luc exagère? Est-ce que l'auteur en rajoute? Et moi, je dirais, non, Luc rapporte ses souvenirs personnels. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une drôle de manière d'écrire. Ici, vous remarquerez quand vous allez lire, il y a du « nous ». Voyez-vous le mot « nous » ici? Qui apparaît de temps en temps, en fait, c'est que quand Luc a décidé d'écrire, il utilisait parmi ses sources d'information un journal personnel. Ça veut dire que, fort probablement, il était dans le bateau à ces moments-là, et il dit « nous » en l'incluant soi-même. C'est une des explications, c'est la plus populaire, on va dire. Ce sont ses propres souvenirs et ce sont aussi les souvenirs d'autres témoins oculaires. Et c'est sûr que quand Luc écrit, quand n'importe qui écrit quelque chose de biographique, il va être sélectif dans les détails qu'il va choisir et il va peut-être en laisser de côté. C'est normal, il faut que ça soit agréable à lire, il ne faut pas que ça soit trop long, il faut que ça tienne debout. Mais ce sont tous des choses basées dans des souvenirs réels de ce qui s'est passé. Et effectivement, Luc nous montre qu'il n'y a pas juste des choses glorieuses. Il ne parle pas de toutes les épreuves, mais il nous montre aussi qu'il y a des contretemps, des moments difficiles et des moments de déception. Et c'est mon deuxième point ici. Si je réussis à... Attendez. Oh, c'est l'ordinateur qui a gelé. Donc, désolé. On va continuer. Luc nous indique quand même que ce n'était pas rose du tout pour Paul. N'oublions pas que notre symbole dans toute notre vie, c'est la croix. Nous vivons sous l'ombre de la croix. Oui, dans la joie du Saint-Esprit, mais aussi dans les épreuves. Dans les épreuves, Jésus a passé par l'épreuve ultime. Paul, tous les apôtres, nous aussi, il faut qu'on soit prêts à souffrir. Et voyons un peu comment Paul a souffert, d'autant plus que, on ne se le cache pas, la vie humaine est difficile. Tout le monde souffre. Est-ce que c'est juste les chrétiens qui souffrent? Non. Mais si tu décides en plus de te donner comme mandat de suivre Christ et de le faire connaître, je m'excuse, mais tu te rajoutes des difficultés supplémentaires. C'est la triste réalité. Vous savez de quoi je parle. Regardons maintenant un petit inventaire incomplet encore des souffrances de Jésus. Paul y est vu parce que c'était un leader des pharisiens, un leader des ennemis des chrétiens qui devient un apôtre. Il est vu tout de suite comme une menace sociale. De manière générale, son évangile remet en question la façon de fonctionner du monde. Même les païens, pas juste les juifs, mais même les païens, le voient comme une menace sociale. Il est accusé par les gens, et même les gens inventent des accusations fausses contre lui. Il y a des complots qui sont organisés pour l'inculper par les policiers, et même des complots pour l'assassiner. À un moment donné, il se fait arrêter à Jérusalem, c'est le début là, et de ce quatrième voyage, il se fait arrêter. Et puis, le monde qui observe l'arrestation sont en train de crier « À mort! » Il n'est même pas encore jugé. Ils sont en train de crier « À mort! » Quand le procès commence, ils se mettent à crier « Cet homme est une peste! » Il est responsable d'une secte dangereuse. Un peu plus tard, il crie « Faites disparaître de la terre un tel homme! » Bon, ça fait mal, ces choses-là. Ça montre à quel point il est détesté. À un moment donné, un témoin va témoigner dans le procès et gifler Paul en plein visage. Puis, il y a des déceptions aussi. Paul va être amené de Jérusalem à Césarée, ensuite dans une autre ville. À un moment donné, il y a une personnalité politique qui dit « Faites-le sortir de sa cellule, moi je veux entendre son message. » Paul va à répétition annoncer l'Évangile à ce responsable pour découvrir que finalement, ce n'est pas Jésus qui l'intéresse, c'est un pot de vin. En fait, ce politicien, il attend que Paul lui offre de l'argent. Pour qu'il puisse sortir de son incarcération. Paul ne le fait pas et il continue à aller inutilement lui annoncer l'Évangile. En tout cas, inutilement à vieux humains. Toutes sortes de souffrances aussi liées à la forme du ministère de Paul, parce qu'il est appelé à un apostolat pionnier. L'emprisonnement, les dangers des voyages, les maladies, les blessures, les privations, la solitude, le manque d'argent. Puis aussi, il y a les gens proches de lui, ses propres compagnons, ses disciples, qui vont, en fait, assez souvent le décevoir. Luc n'en parle pas beaucoup, on le perçoit plus dans les lettres, mais on le voit quand même dans... Vous vous souvenez quand on a vu, il y a deux semaines, son discours aux anciens d'Éphèse? Hein? Il est sur la plage et il les avertit quand il a dit « Ça ne sera pas de ma faute. » Est-ce qu'il y en a qui étaient là? « Ça ne sera pas de ma faute. » Est-ce que ça vous dit quelque chose? Une personne? OK, c'est mieux que zéro. Très bon. Donc, Paul leur dit, « Oubliez pas que je n'ai pas cessé de vous avertir avec larmes. » au chapitre 20. Pourquoi les larmes? Sinon que les chrétiens de cette époque, ils sont comme nous. Ils sont parfois faibles, parfois infidèles. parfois déloyaux, parfois pire encore. Paul les avertit dans ce speech-là que certains d'entre eux, ou certains dans l'Église en tout cas, vont même se tourner contre l'Évangile et faire du mal au troupeau. Cette souffrance-là aussi, Paul la porte comme une souffrance dans l'âme. Et vous savez, c'est intéressant, un écrit qui n'est pas dans le Nouveau Testament, qui s'appelle la première lettre de Clément. Clément, c'était un des premiers pasteurs de l'Église chrétienne de Rome. Il a écrit une lettre qui est datée de 95. C'est très vieux, c'est pas la Bible, mais presque. En tout cas, c'est à peu près à la même époque, un petit peu plus tard. Et Clément, lui, il dit, « Souvenons-nous de l'apôtre Paul qu'à cause d'une jalousie entre chrétiens, Paul a été dénoncé et il a été exécuté. » Alors, il ne donne pas beaucoup de détails, mais ça semble indiquer qu'il y avait de la chicane entre les chrétiens, peut-être dans l'Église de Rome. Quelqu'un était jaloux de Paul et l'a peut-être faussement accusé. Puis cette fois-là, eh bien, Paul y est passé. On n'a pas beaucoup de détails. C'est triste quand même. C'est triste. Mais ils étaient donc comme nous. On pense à ce qu'on entend autour de nous, dans nos églises. On ne se le cache pas. Même l'Oasis, dans ses rapports avec d'autres églises, avec d'autres organisations, c'est pas toujours... C'est pas toujours facile. Les chrétiens de cette époque-là étaient comme nous. Paul portait ces souffrances-là. Il a même payé le prix par sa propre mort. Quelle est ta souffrance aujourd'hui? Oh, est-ce que j'ai un PowerPoint? C'est pas grave. Écoutez-moi, d'accord? Quelle est ta souffrance aujourd'hui? Peut-être que tu es déçu. Hein? Peut-être un de tes propres enfants que tu pensais était avec toi dans l'Évangile. Peut-être que vient de te dire, ben, papa, maman, je remets un peu en question. J'ai besoin de recul. Hein? Il y a des personnes parmi nous qui souffrent ce genre de choses. Peut-être que c'est quelque chose de plus humain. Plus universel, tu cherches une job, puis tu attends que Dieu t'en donne une, puis hein, peut-être que tu vis un problème de santé sérieux, tu vis un conflit au travail ou autre. Regarde à tes prédécesseurs et ne te décourage pas. Les apôtres, ils sont là, ils avaient une force spéciale. Leur voile était soufflée d'une manière toute spéciale pour nous montrer à nous que nous aussi, on peut faire face à nos moments de solitude, à nos moments de détresse et dire quand même à Dieu, remplis ma voile, puis donne-moi la force de faire ce que j'ai à faire. Amen. Parce que c'est ça, puis c'était la troisième troisième aspect que je voulais regarder. C'est juste pour vous dire que dans Actes 21-28, la fin du livre des Actes, il y a beaucoup d'épreuves, mais il y a vraiment une joie qui est là. Puis si vous lisez ça, vous allez voir, c'est réjouissant, c'est rafraîchissant, il y a un vent qui souffle. Malgré que Paul y est enchaîné, il y a un vent qui souffle, puis c'est c'est quoi ce vent-là? C'est le vent. Vous pensez que c'est quoi ce vent-là? C'est l'Esprit de Dieu. C'est exactement, merci. Toujours cette même fraîcheur. Paul saisit les occasions, comme j'ai dit, pour prêcher. Il prie pour les malades, toujours avec la même foi. Puis à un moment donné, il va témoigner devant un roi, pas l'autre gars qui voulait de l'argent, mais encore un autre qui s'appelle Agrippa. Puis là, Agrippa, il lui dit, ça c'est dans le chapitre 26, Agrippa lui dit, « Wow, tu vas finir par me convaincre. Tu vas finir par faire de moi un chrétien. Arrête de prêcher. » Paul lui répond, Mon souhait le plus profond, Agrippa, c'est que tu deviennes comme moi. Puis c'est comique parce qu'il est enchaîné quand il dit ça. Mais il ne parlait pas de devenir prisonnier. Il parlait de la joie qu'il a à l'intérieur, que même enchaîné, il veut que les rois deviennent comme lui, que les rois reçoivent cette joie-là, ce vent qui remplit leur voile. Puis je trouve que Matthieu, il nous l'a bien expliqué la semaine passée, bien, il nous a rappelé l'Évangile. Hein? On a été adopté par un Dieu à qui on avait fait la guerre en nous éloignant de lui par le péché. Dieu nous a pardonné de notre impiété avant même qu'on se tourne vers lui. Puis il nous a amenés à lui dans la repentance. Il nous a sauvés pour l'éternité, marqués de son sceau. Maintenant, tu sais que tu es aimé inconditionnellement par un tendre père. Tu es conduit aussi par un grand frère qui est ton sauveur. C'est qui le grand frère? Amen, oui. Et tu peux vivre plein de joie comme une voile gonflée par un vent d'été. Tu as aussi le privilège de travailler avec Dieu dans ton coin de Montréal. À vous aussi, frères et sœurs, la promesse est donnée. Oh, oui, ça tombe bien. Voilà. Paul, à un moment donné, dans son explication de l'Évangile aux chrétiens de Rome, il dit, il cite le psaume 32, « Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » OK? Et il dit, voilà, déjà dans l'Ancien Testament, les gens commençaient à comprendre qu'on est sauvé par grâce, on est déclaré pardonné. Hein? On ne rentrera pas dans notre débat de l'autre fois, est-ce que Dieu se souvient ou pas? Peu importe, c'est pardonné. On est complètement accepté dans le cœur du Père. Et un autre verset, et ça c'est un autre apôtre, l'apôtre Jean, qui écrit ceci pour nous donner l'assurance du salut. Puis ça, apprenez-le par cœur pour vous souvenir dans les moments où vous vous accusez vous-même que les apôtres, ils voulaient qu'on soit certain de notre salut. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela afin que vous croyiez, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pardon, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. As-tu le Fils? Est-ce que tu l'as accepté dans ta vie? Tu peux savoir que tu as la vie éternelle. Parce que ce n'est pas des choses dont il faut se souvenir pour que notre voile se remplisse de joie. Donc, on va conclure, hein, puis je veux vous remercier pour toute votre attention cette année sur le livre des Actes. On termine un peu avec ce bel exemple de l'Esprit qui souffle sur Paul. Laisse Dieu remplir ta voile, ma sœur. Laisse Dieu remplir ta voile, mon frère, et tu seras un témoin joyeux de Christ, même dans tes épreuves d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, on a vu au début du livre des Actes, Jésus donne un mandat, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On arrive à la fin du livre des Actes. On voit Paul rempli de l'Esprit qui continue le travail. Il est à Rome, mais il n'est pas rendu encore à l'extrémité de la terre. C'est nous. En tout cas, si on n'est pas à l'extrémité de la terre, on est à notre extrémité à nous. Hein? Donc, il faut continuer le travail. On n'a pas le choix. Laisse remplir ta voile. vous rappelle aussi cette doctrine enseignée par Jésus et qui est très chère dans notre groupement d'Église, l'Alliance chrétienne et missionnaire. Il faut que toutes les nations entendent et soient atteintes par l'Évangile avant que Jésus revienne. Je répète, il faut que toutes les nations soient atteintes par l'Évangile avant quoi Jésus reviendra. Amen. On continue le travail. Donc, prenons un moment pour prier pendant que l'équipe de louanges s'approche et s'installe. Demandons au Seigneur de nous remplir de l'Esprit. Confesse si tu t'es éloigné de Dieu. Confesse à Dieu. Sois rempli de l'Esprit. Prions maintenant et quand la musique va commencer, célébrons dans la joie. À vous la parole.